Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de l'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Etchari.
Nous nous intéressons aujourd'hui à un article publié dans la revue Far West, l'un de nos médias partenaires. Et aujourd'hui, on vous propose d'aller à la rencontre d'un jeune champion. Pas de foot ou de rugby ici, mais de la boxe thaï. Il s'appelle Enzo, il a 15 ans et c'est vous qui l'avez rencontré. Bonjour Xavier Davias.
Bonjour.
Alors commençons avec le principal. Présentez-nous Enzo.
Enzo, c'est un ado qui habite à Lyonos et qui pratique la boxe thaï depuis tout petit, entraîné par son père et qui boxe au Fighting Club de Biganos, en Gironde.
Alors, les auditeurs ne connaissent pas forcément son sport, la boxe thaï. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle différence avec la boxe anglaise, par exemple?
La boxe thaï, c'est un sport qui est classé dans les boxe pieds-poings. À la différence de la boxe anglaise où on n'utilise que les poings, là, on utilise les pieds, mais aussi les genoux et les coudes, ce qui fait qu'on a une approche vraiment différente de cette pratique-là, quoi. Donc, comme son nom l'indique, c'est une boxe qui est née en Thaïlande, je crois, aux alentours du XVIe siècle, qui était utilisée à des fins quasiment militaires, quoi.
Sauf qu'aujourd'hui, en plus des combats qu'il mène au niveau sportif, Enzo est confronté à d'autres difficultés. Lesquelles?
En fait, Enzo, c'est pas juste un pratiquant de boxe thaï, c'est un boxeur qui veut en vivre, qui veut vraiment se vouer à cet art-là. Pour en vivre, il faut s'insérer dans le tissu pro, en fait, C'est assez compliqué parce que c'est un milieu qui n'est pas aussi populaire que des sports plus classiques comme le football ou le rugby, surtout dans le sud-ouest et encore plus à Biganos où le rugby et le foot sont très très populaires. Donc lui, pour faire carrière, il va devoir se frotter à la difficulté d'avoir un parcours international, d'avoir un peu de reconnaissance et puis de dégager des fonds, surtout pour financer son entraînement qui est coûteux.
Et justement, au quotidien, comment se passe l'entraînement d'Enzo? Comment est-ce qu'il fait pour jongler entre les sports et sa scolarité, par exemple?
En fait, comme je le disais en préambule, Enzo, il s'entraîne au Fighting Club Boyen. Donc, c'est le club qui est animé par son papa, Philippe Perrastre. Et donc, il a la chance de quasiment fréquenter tous les jours la salle de boxe. Donc, lui, il est au collège actuellement. Il poursuit donc ses études en troisième. Le matin, je crois qu'il pratique un peu. S'il tape pas dans les sacs, il court, il fait du cardio. Et puis le soir après les cours, il reprend le sac de frappe, les exercices, le cardio, le gainage, le renforcement. Il consacre quand même pas mal de temps à ça autour de ses études, quoi.
Et il y a une salle exprès donc de boxe thaï à Biganos?
Alors c'est pas une salle exprès de boxe thaï, c'est une particularité que j'ai trouvé assez intéressante et dont j'ai fait mention dans le papier dans la revue Far West. C'est que justement la salle en question, elle est située dans le cœur de la tribune où on assiste au match de rugby. En fait, il y a un corps creux en fait et il a une petite salle qui est vraiment très très modeste. Et qui sert de salle d'entraînement pour le club de boxe. Et c'est ici que Enzo s'entraîne et qui passe la plupart de son temps.
Et en mars dernier, Enzo est revenu de Thaïlande couronné de succès. Mais vous racontez dans votre article que c'est un épisode qui l'a marqué de façon plutôt négative.
En fait, il est parti l'an dernier. C'était, je crois, mi-février, mi-mars. Il est parti quelques semaines en Thaïlande pour s'entraîner, mais aussi pour disputer un combat important dont il est revenu vainqueur. Il a ramené ce qu'on appelle la ceinture intercontinentale. Il y avait un combat qui était organisé avec des promoteurs. Il l'a gagné. Il est rentré en vainqueur. Et donc, il a été accueilli par ses proches, ses soutiens, les membres de son club, etc. Dans le papier, il y a une photo où on le voit. Il est soulevé, en fait. Il est porté en triomphe par ses potes devant la mairie. Mais quand il a voulu se présenter à la mairie pour partager sa joie et puis son bonheur, Bon, il est peut-être pas tombé sur la bonne personne, on lui a fait comprendre qu'il fallait pas rester là. C'est clair que lui, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel parce que son entraînement, cette pratique-là, ça demande un engagement et beaucoup de sacrifices, hein, c'est son choix, mais du coup, il est allé porter jusqu'en Thaïlande, en fait, les couleurs de sa ville. Et bon, lui, c'est pas qu'il attend pas un retour, mais il s'était dit qu'au moins ça pourrait être partagé, quoi, ce moment de joie. Et sur le coup, bah, la réaction d'être un peu rejeté comme ça, ça a été un peu dur à encaisser, quoi. Plus que les coups qu'il a encaissés pendant son combat.
Et d'ailleurs, c'était un combat d'un niveau assez élevé ou comment c'était quel genre de challenge pour lui ?
Lui, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans une progression constante au niveau de tous les combats qu'il dispute et les compétitions auxquelles il participe au fur et à mesure, que ce soit au niveau départemental, régional, après en France, Europe. Donc là, il a fait quand même un saut assez important parce qu'il est parti au berceau de cet art de la boxe thaï en Thaïlande. Il allait s'entraîner dans des conditions particulièrement rudes, avec la chaleur, l'humidité, etc., qu'il connaît pas ici en Gironde. Donc voilà, il était dans un camp avec des conditions où il n'y a pas forcément de confort, quoi. Le temps est consacré à l'entraînement. Il est un boxeur comme les autres, et il n'est pas traité différemment. Et par contre, quand il est monté sur le ring pour disputer son combat, il s'est retrouvé face à un combattant thaïlandais qui était plus âgé que lui. Bon, il m'a expliqué que voilà, quand il s'est préparé, il n'est pas parti. C'est pas qu'il n'est pas parti en vainqueur, mais bon, il s'est dit il y a peut-être moyen que ça se passe pas comme prévu. Et donc, ça n'a pas été si facile que ça. Et il en a eu la confirmation, je crois qu'il m'avait expliqué, dès le premier round ou avant la fin du second round, il avait pris une pêche, on va dire qu'il avait bien sonné. Et il s'est dit, là, il va falloir que je me réveille parce que ça va pas jouer en ma faveur. Et bon, il a fini par avoir le dessus, mais c'était pas à gagner d'avance, quoi. Donc, il a été arraché sa victoire.
Face à cette indifférence ou face à ce manque de reconnaissance, les réseaux sociaux vont donc devoir jouer un rôle important pour lui. Comment ça fonctionne exactement ?
Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui fait partie du jeu maintenant. Lui, il a besoin de ça pour communiquer, pour se faire connaître, parce que c'est vrai que localement, en fait, bon, on entend parler de lui, on parle de lui quand il a des succès, etc., mais bon, les gens mesurent pas, quoi. C'est des petits exploits qui sont pas appréciés à leur juste valeur, j'imagine. Et les réseaux sociaux, ça permet d'aller chercher d'autres publics, d'autres audiences, d'autres oreilles, en fait, ou des mécènes ou des sponsors. Donc, il faut être bon, en fait, sur cette communication-là pour pouvoir se faire connaître son histoire et avoir du soutien, moral, financier, logistique, etc. Pour lui, les réseaux sociaux, c'est pas forcément d'ailleurs pour lui, hein, c'est pour tous les gens comme lui, les boxeurs ou les sportifs comme lui qui veulent accéder à une notoriété en vue d'une carrière. Il faut gagner ces réseaux sociaux. Pour ça, bah, ça demande un investissement qui est pas le même que celui qu'il peut fournir quand il est dans une salle à frapper dans un sac. Et cet investissement-là, il lui est un peu étranger parce que les réseaux, c'est pas forcément son truc. Même s'il est ado, il passe pas son temps sur les ordis, quoi. Il passe son temps dans une salle de boxe. À partir de là, cette popularité qu'il faut aller chercher, ça lui demande un effort. Ouais. Ça lui demande un effort, des compétences qu'il a pas forcément, parce que voilà, il faut faire du marketing digital, il faut aller publier régulièrement, etc. Il y a des gens qui savent faire. Lui, c'est pas son truc. Il le dit très simplement, mais il en a besoin. Donc c'est une première barrière, quoi, qu'il faut vraiment qu'il arrive à passer, quoi. Parce que derrière, les sponsors, en fait, ce sont eux qui vont aller l'aider à financer des opérations en fonction de sa popularité. Alors, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'effectivement, cette recherche de popularité, c'est un peu... des fois, ça prend le pas dans la discipline sur l'entraînement chez les autres. Là où certains font la course aux abonnés, aux followers, bah, lui, il passe son temps un peu plus sur les sacs de frappe. Par contre, il bénéficie pas de ces retombées, quoi.
Et justement, sans sponsor ou sans nombre d'abonnés conséquents, quels sont les risques, si on peut dire, pour Enzo ?
Bah, le risque, c'est de pas être sur le podium dans la course aux followers, aux abonnés. Malheureusement, c'est un jeu parallèle qui mène à son sport, quoi, et qui doit aussi gagner. Donc, il n'a pas le choix, il faut qu'il soit bon sur ces réseaux sociaux-là, sur cette recherche de sponsors. Et surtout, en fait, ses entraînements, s'il veut progresser maintenant, s'il veut passer des caps, il va devoir sortir en fait de son milieu très local, en fait, et passer plus de temps dans d'autres cercles d'entraînement, d'autres rings, d'autres compétitions. Et ça l'amène régulièrement à Paris, ça coûte des sous. Ça l'amène régulièrement aussi en Thaïlande, où il va s'entraîner de temps en temps. Et ça aussi, ça coûte énormément de sous. Pour l'instant, c'est quasiment autofinancé, hein. En fait, le fait d'avoir des sponsors lui permettrait de financer plus facilement un camp ou un stage en Thaïlande. Et aujourd'hui, bon, ben, c'est compliqué, quoi. Comme le boxe thaïlandaise n'est pas forcément encore assez populaire, bon, ben, c'est pas un milieu dans lequel on va mettre des sous prioritairement, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres boxeurs qui sont ou qui ont été dans son cas et qui pourraient donner un retour d'expérience, on va dire ?
Pour l'occasion de cet article, j'avais eu le plaisir de parler à Jimmy Viennot, qui est champion d'Europe, champion de France et champion du monde à plusieurs reprises. Donc lui, c'est un jeune homme de 25 ans qui y est arrivé à dépasser un peu ce plafond de verre de faire carrière, on va dire. Mais lui me confiait que c'était... C'était normal, en fait. C'est de bon. D'abord, il y a une question de temps. Il faut expliquer que Enzo, au moment où je l'ai rencontré, il avait 15 ans. Donc, il a encore beaucoup de chemin à faire, hein. Ça fait 10 ans qu'il pratique. Donc, ça paraît énorme. Mais en même temps, il a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut serrer les dents, s'entraîner. Et avoir cet investissement-là sans compter, quoi. Parce que c'est le retour sur investissement, il n'est pas immédiat, quoi.
Et dans votre article, vous expliquez qu'Enzo a dû trouver une solution alternative en plus de la boxe thaï. Laquelle ?
Oui, alors en fait, Enzo, il a trouvé une petite astuce pour pouvoir rester dans ce milieu-là et y trouver matière à bosser de manière intelligente. C'est-à-dire que la boxe thaï en soi lui offrait pas une formation, lui offrait pas une situation pérenne, etc. Il y a beaucoup de gens qui bossent, qui font des petits boulots et qui consacrent tout le reste de leur temps à la boxe, à l'entraînement, etc. Et lui, en fait, il a décidé de passer par la case MMA. Alors MMA, ça veut dire Mixed Martial Art. C'est un condensé en fait de plusieurs techniques de combat. On appelle ça plus vulgairement l'octogone, etc. Le fait de rejoindre une écurie de MMA, en l'occurrence la MMA Factory, ça lui permet d'avoir aussi accès à une formation pour plus tard devenir entraîneur. Et donc vivre de ce métier-là, même si c'est pas directement en tant que combattant. Mais en tout cas, il sécurise un parcours professionnel. Et ça, c'est intéressant parce que, au lieu de faire un petit boulot lambda, lui, il essaie en tout cas de s'insérer dans un milieu qui est le plus proche possible de sa passion et de son rêve, c'est-à-dire quand même devenir champion du monde. Voilà, c'est pas rien, mais bon, il faut avoir des rêves à la hauteur de ses ambitions. Et en fait, en passant par la case MMA, il espère obtenir un diplôme et puis une situation professionnelle qui lui permettrait de continuer à fréquenter les rings, de continuer à s'entraîner, de continuer à évoluer dans ce milieu et longtemps, en fait. Parce que ce qu'il m'expliquait aussi, c'est que pour avancer, bon, il faut faire des combats, il faut se battre, mais il y a aussi le souci de préserver son corps. Parce que il y a des risques de blessures, il y a des risques de fatigue. En fait, il faut faire les choses. Enfin, lui, c'est marrant parce qu'il a 15 ans, mais il m'expliquait l'importance de faire les choses intelligemment, quoi. De pas se blesser, de pas faire n'importe quoi, de pas boxer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. De pas se jeter sur tous les combats et de choisir les bons combats qui vont l'amener aux bons endroits. On pourrait penser que, de manière un peu bourrin, en alignant les victoires le plus rapidement possible, on peut se retrouver le plus vite en haut de l'échelle et sur le podium, mais lui me disait au contraire, bah il y a des boxeurs qui veulent aller très vite, qui font beaucoup de combats, qui sont mal, ils arrivent très vite en haut, mais ils en redescendent aussi très très vite, et puis après il y a plus rien. Donc du haut de ses 15 ans, il a quand même une vision des choses qui me semble fait preuve de discernement, quoi.
Et son intégration dans ce milieu de la MMA et à la MMA Factory, comment ça se passe? Parce que c'est quand même assez éloigné pourtant de son sport originel.
Alors pas forcément, parce que c'est un milieu qui rassemble des sportifs d'un peu toutes les disciplines, boxe, boxe thaï, kickboxing, etc. Il y a beaucoup de gens qui passent par tous ces sports de combat. Donc finalement, ils se retrouvent autour d'une même envie, quoi. Donc l'intégration s'est bien faite. Là, il est entre, je crois, le Pays Basque et Paris. A priori, de ce que j'ai compris, ils l'ont intégré assez vite. Il n'a pas de grosses différences. Il n'y a pas eu de discrimination par rapport à son origine géographique ou à son sport ou à son âge. J'ai l'impression que ça se passe bien pour lui.
Et comme tous les champions et tous les sportifs, Enzo doit suivre un mode de vie plutôt contrôlé pour un jeune de 15 ans au final.
Oui, alors contrôlé, c'est-à-dire que c'est plutôt ce qui ressort de la question d'hygiène de vie. Il est dans des situations où il faut qu'il y ait une maîtrise, par exemple, du poids, il faut qu'il ait un cardio top, il faut qu'il ait des qualités physique mobilisable instantanément, quoi. Donc pour ça, ça veut dire pas de junk food, ça veut dire pas de cigarettes, ça veut dire pas d'alcool. Quand on a 15 ans, ça veut dire aussi une bonne dose de sommeil, quoi, son quota de sommeil pour être prêt pour l'entraînement tous les jours. Ça éloigne les excès qu'on peut avoir de manière un peu caricaturale quand on est ado. Et en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, moi j'étais parti du principe en lui posant la question que c'était un sacrifice, que ses copains pouvaient s'amuser et tout, et que lui, ça se traînait un régime assez spartiate. Et en fin de compte, lui ça lui va très bien, il sait ce qu'il veut. Ça, il me l'a dit assez rapidement. Il connaît son objectif, il sait ce qu'il faut faire pour l'avoir. Donc à partir de là, l'hygiène de vie, ça c'est pas un problème, quoi, en fait. C'est même plutôt naturel chez lui. Après, il y a aussi, il est très attentif à l'image qu'il peut donner en tant que jeune sportif. Donc il est un peu ambassadeur, quoi, aussi. De son milieu, de son club, de sa ville quand il va sur des rings à droite à gauche en Europe ou même comme on l'a vu en Thaïlande. Donc il est soucieux de pas donner une mauvaise image, de pas faire n'importe quoi. Et pour lui, c'est cette vie bien cadrée elle colle bien avec sa vision des choses, quoi.
Et maintenant, comment s'annonce la suite pour Enzo? Quels sont ses projets?
Il est revenu de Thaïlande avec cette ceinture juste avant le Covid, juste avant le 17 mars. 2020, c'était vraiment quelques jours avant, 2-3 jours, on commençait à en parler. Et après, la crise sanitaire a perturbé le déroulement des compétitions, a perturbé le déroulement des entraînements, surtout en salle, etc. Donc pour lui, ça a stoppé toutes les compètes et tous ses projets. Et l'entraînement, il a fait comme il a pu sur le côté. Au lieu d'aller à la salle parce que c'est pas possible, il allait courir quand on avait le droit de sortir une heure. Il allait faire son heure de sport en courir. Et donc là, je sais qu'il prépare. J'ai eu son papa au téléphone. Il me disait qu'ils étaient en train de préparer un titre mondial. Donc il est en train d'approcher son rêve, quoi. Mais ça dépend aussi de la situation sanitaire. Ça dépend même pour tout vous dire, de la situation géopolitique des pays où ça doit se dérouler. Donc il y a déjà eu une tentative au mois d'avril qui a été avortée à cause d'un problème géopolitique. Et là, il doit peut-être, si tout va bien, sur le courant de l'année 2021 participer à un titre mondial. Donc ça serait son occasion en fait de briser ce plafond de verre et d'accéder à, un peu à une notoriété qui l'attend en fait. Hein, il y est presque, c'est pas fait, il faut pas mettre la charrue devant les bœufs, mais en tout cas c'est dans les tuyaux.
Bon, eh bien, on lui souhaite bonne chance dans tous les cas. Merci Xavier Davies d'avoir été avec nous.
Merci, avec plaisir. Au revoir.
Votre article est à retrouver dans la revue Far West et sur le site internet de notre média partenaire.
Merci Clara Etchari. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignier, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.